l'alarme a sonné pour le régime sioniste et ses partisans, avertit le porte-parole de la diplomatie iranienne. La plus grande opération de contrebande d'armes jamais menée a été déjouée à Soleimania, au Kurdistan irakien, et la CDAO définit le terrorisme et les putschs comme priorité du sommet d'Abuja. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la sonnette d'alarme a été tirée pour le régime d'occupation israélien et ses soutiens occidentaux, en énumérant les principaux développements récents en faveur de la cause palestinienne. Dans un message posté sur Twitter le vendredi 2 décembre, Nasser Kanani a souligné quatre développements clés qui ont sonné l'alarme pour le régime sioniste et ceux qui soutiennent l'occupation. Les deux premiers facteurs, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, sont la crise et l'impasse politique et sécuritaire interne à Israël et la propagation de la résistance anti-occupation de Gaza à la Cisjordanie et aux territoires occupés de 1948. Concernant les autres facteurs montrant que l'alarme a sonné pour Israël, le diplomate iranien a cité la mondialisation de la haine contre le régime sioniste, dont certains aspects peuvent être observés en marge de la Coupe du monde de football au Qatar, ainsi que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution pour instaurer la journée de la mise en place du régime sioniste en tant que le jour de la Nakba. L'accent mis par le régime sioniste d'apartheid et ses partisans sur l'iranophobie est une tentative désespérée et futile de détourner l'attention du public de la question palestinienne et de fournir une respiration artificielle à un régime israélien mourant, a déclaré Nasser Kanani, faisant référence à la guerre hybride menée par les puissances occidentales contre l'Iran au cours des derniers mois. Le véritable vainqueur de la Coupe du monde est la nation palestinienne et son perdant est le régime sioniste, a dit le porte-parole de la diplomatie iranienne. La plus grande opération de contrebande d'armes jamais menée a été déjouée alors que le flux illégal d'armes vers l'Iran s'est accru ces derniers mois, selon les médias iraniens locaux. Les forces de sécurité ont confisqué une cache d'armes à Soleimania, une ville située dans l'est de la région du Kurdistan irakien. Samedi dernier, les forces de renseignement iraniennes ont déclaré que lors d'une opération de sécurité, elles avaient réussi à démanteler un gang international de contrebande d'armes et de munitions dans le sud-est de la province du Sistan et Baloutchistan. Les armes confisquées au gang de contrebandiers avaient été acheminées en Iran pour être utilisées dans le cadre des mouvements d'agitation récents soutenus par l'étranger. Lors d'une autre opération, les forces du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, ont également arrêté un officier de renseignement de l'un des États du Golfe Persique qui prévoyait de prendre des mesures anti-sécurité dans la province occidentale d'Hormozgan. Au début du mois d'octobre, la base Hamza Saïd al-Shohada du CGRI a déclaré dans un communiqué qu'une cellule de contrebande d'armes avait été démantelée par les forces du CGRI alors qu'elle cherchait à faire entrer clandestinement des armes dans le pays depuis la frontière nord-ouest. 9 fusils d'assaut et une grande quantité de munitions ont été saisis en leur possession, précise le communiqué. La déclaration indique qu'en fournissant des armes à des terroristes et à des agents séparatistes en Iran, l'ennemi visait à perturber la sécurité publique, à diffuser de fausses informations sur les émeutes et le nombre de morts et à instrumentaliser la question à des fins politiques. Leur aide contre le groupe de contrebande d'armes intervient alors que les groupes terroristes ont intensifié leurs activités ces dernières semaines pour porter atteinte à la sécurité du pays en soutenant les émeutes meurtrières qui ont éclaté après la mort de Mahsa Amini. Les violentes émeutes soutenues par l'étranger ont fait des centaines de morts parmi les forces de sécurité et les civils au cours des deux derniers mois. L'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté en citant une source d'information locale que le terroriste Abu Hassan al-Hashemi al-Huraishi, dont Daesh a annoncé la mort, était le même terroriste Abu Abdulrahman al-Iraqi qui a été liquidé lors de l'opération de sécurité à Jassim. Pour rappel, à la mi-octobre, Damas a annoncé avoir lancé une opération conjointe contre Daesh avec des combattants locaux dans le sud de la province de Dera. Dans un communiqué, le commandant militaire américain au Moyen-Orient, CENTCOM, a affirmé qu'Abu Hassan al-Hashimi al-Quraishi avait été tué à la mi-octobre dans la province de Dera, dans le sud de la Syrie, par l'armée syrienne libre, ajoutant que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans la mort de ce terroriste. Le groupe terroriste Daesh a annoncé mercredi 30 novembre la mort de son chef, tué au combat, et la nomination de son successeur. Le porte-parole du groupe terroriste a également demandé aux membres de Daesh de prêter allégeance au nouveau chef. Dans un message audio posté sur Telegram, le porte-parole de Daesh a annoncé qu'Abu Hassan al-Hashemi al-Ruraishi avait été tué sans donner plus de détails sur le lieu, la date et les circonstances de sa mort, précisant que son successeur, Abu al-Hussein al-Husseini al-Ruraishi, avait été désigné. Abu Hassan al-Ruraishi était le troisième chef de Daesh, qui a pris la tête de l'organisation le 10 mars 2022, un mois après que son prédécesseur Abu Ibrahim al-Hashemi al-Ruraishi a trouvé la mort dans une opération héliportée. En outre, il convient de noter que l'armée syrienne a envoyé des équipements militaires, notamment des chars et des véhicules blindés de transport de troupes, à la périphérie d'Alep afin de faire face à une éventuelle opération militaire terrestre turque. Les forces militaires syriennes et leurs équipements militaires se sont déplacés vers la ligne de front du conflit avec les groupes armés soutenus par la Turquie. L'arrivée de matériel militaire de l'armée syrienne à Tal Rifat, dans la banlieue nord d'Alep, et son déploiement sur la ligne de front du conflit montrent la possibilité d'une opération terrestre de la Turquie. Cette dernière a averti, il y a une quinzaine de jours, de prendre le contrôle de Tal Rifat, Manbije et Ain al-Arab, qui sont sous le contrôle des forces démocratiques syriennes FDS. Pour éviter les coupures de courant, Elisabeth Borne demande aux Français de réduire leur consommation d'énergie. Afin d'anticiper et de préparer la population française, les entreprises et les administrations à d'éventuelles coupures de courant en cas de tension sur le réseau, Matignon a publié une circulaire dédiée à ce sujet. Si le document a suscité quelques inquiétudes, la première ministre Elisabeth Borne a tenu à rassurer les Français de métropole. Si nous ne faisons tous avantage encore pour réduire notre consommation, nous ne serons pas coupés, a-t-elle dit devant un parterre de journalistes. Elle a également rappelé aux citoyens l'importance de la sobriété énergétique en ces temps difficiles. Nous avons tous une partie de la réponse entre nos mains. Si on baisse tous notre consommation d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat de tout le monde, la compétitivité des entreprises et du même coup, ça évitera d'avoir un moment où on aurait un niveau de production d'électricité insuffisant par rapport à la demande. Par exemple, lors d'une vague de froid, a martelé la chef du gouvernement de ce deuxième quinquennat de Macron. Dans la circulaire de l'exécutif, relayée par l'agence France Presse, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français RTE indique que les coupures d'électricité seront inévitables si la consommation d'électricité ne diminue pas aux heures de pointe de la journée, c'est-à-dire entre 8h et 13h, puis entre 18h et 20h. Janvier serait le mois le plus à risque, a prévenu RTE. Dans le pays voisin, les Belges sont plus inquiets que furieux face à l'inflation et à la flambée des factures d'électricité et de gaz. La Belgique, qui n'a mis en place aucune mesure de soutien pour contrer la flambée des prix, voit également les prix de l'énergie exploser alors que plusieurs manifestations ont été organisées. Les Belges semblent attendre une augmentation de leurs salaires qui sont indexés sur l'inflation. Alors que s'ouvre le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dimanche 4 décembre à Abuja, les travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution se sont achevés vendredi 2 décembre dans la capitale nigériane. Parmi les dossiers sur la table, la lutte contre le terrorisme, les changements de gouvernement par des voies non constitutionnelles et le processus de transition politique. Selon l'un des mémorandums, document officiel de travail que RFI a pu consulter, la lutte contre le terrorisme est désormais une priorité dans la sous-région. Un expert de la CEDEAO résume. Après le Sahel, le terrorisme s'étend à des pays côtiers comme le Togo et le Bénin. Avec une particularité, l'existence d'un cordon ombilical entre les différents groupes qui s'installent dans les pays et de locomotives qui sont Daesh au Sahel et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jenim. Ces deux groupes recrutent massivement au sein de la jeunesse. Et le Conseil des ministres de la CEDEAO laisse à l'appréciation des chefs d'État les mesures urgentes à prendre. Également à l'appréciation des chefs d'État qui doivent se réunir dimanche, sont trois cailloux dans la chaussure. Les transitions au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Le ministre des Affaires étrangères de cette dernière a effectué le déplacement pour défendre son pays dans les couloirs. Cela alors que, pour raison de coups ou de double coup d'État, les trois pays sont suspendus des instances de l'institution sous-régionale. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. L'alarme a sonné pour le régime sioniste et ses partisans. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la sonnette d'alarme a été tirée pour le régime d'occupation sioniste et ses soutiens occidentaux, en énumérant les principaux développements récents en faveur de la cause palestinienne. Les deux facteurs, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, sont la crise et l'impasse politique et sécuritaire interne à Israël et la propagation de la résistance anti-occupation de Gaza à la Cisjordanie et aux territoires occupés de 1948. Concernant les autres facteurs montrant que l'alarme a sonné pour Israël, le diplomate iranien a cité la mondialisation de la haine contre le régime sioniste, dont certains aspects peuvent être observés en marge de la Coupe du monde de football au Qatar, ainsi que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution pour instaurer la journée de la mise en place du régime israélien en tant que le jour de la Nakba. L'Assemblée générale des Nations unies a voté cette semaine en faveur d'une résolution pro-palestinienne visant à commémorer le jour de la Nakba qui marque l'expulsion massive et forcée de plus de 750 000 Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres en 1948. Le mouvement sioniste, soutenu par la Grande-Bretagne, a pris le contrôle de la majeure partie de la Palestine par la force des armes et a annoncé la création du régime factice d'Israël. L'Assemblée a adopté la résolution mercredi 30 novembre avec 90 voix pour, 30 contre et 47 abstentions. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les tentatives futiles d'Israël et de ses alliés de promouvoir l'iranophobie visent à fournir une respiration artificielle à un Israël mourant. L'accent mis par le régime sioniste d'apartheid et ses partisans sur l'iranophobie est une tentative désespérée et futile de détourner l'attention du public de la question palestinienne et de fournir une respiration artificielle à un régime sioniste mourant, a-t-il déclaré, faisant référence à la guerre hybride menée par les puissances occidentales contre l'Iran au cours des derniers mois. Les tentatives du régime sioniste avec le soutien des États-Unis de normaliser ses liens avec davantage de gouvernements ne diminueraient pas l'aversion du monde pour le régime sioniste et sa nature illégitime, a souligné M. Kanani. Le véritable vainqueur de la Coupe du monde est la nation palestinienne et son perdant est le régime sioniste. Dans un autre texte publié sur Twitter mercredi, M. Kanani a déclaré que les soi-disant accords de normalisation entre le régime sioniste et certains gouvernements arabes ces dernières années n'ont pas réussi à éradiquer la haine des populations des pays arabes envers le régime d'apartheid. Il a déclaré que la Coupe du monde 2022, organisée par le Qatar, avait démontré leur dégoût envers le régime de Tel Aviv. La Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar s'est transformée en une démonstration du dégoût des peuples arabes envers le régime d'apartheid sioniste et une démonstration de la solidarité des nations avec la cause palestinienne. Le régime d'occupation israélien est détesté par toutes les nations, a-t-il dit. Malgré la soi-disant normalisation des liens entre certains pays arabes et le régime sioniste en 2020, les sentiments anti-occupation se sont intensifiés parmi les Arabes, comme cela s'est manifesté lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022, la première étant organisée par une nation musulmane. Ces dernières semaines, depuis le début du carnaval du football au Qatar, le sentiment anti-israélien est monté en flèche, les fans de football du monde entier agitant le drapeau palestinien pendant les matchs. Les fans de football ont également refusé de parler aux journalistes israéliens couvrant la Coupe du Monde, citant l'occupation illégale des territoires palestiniens et les atrocités débridées contre le peuple palestinien. Outre le boycott des médias israéliens, de grandes bannières pro-palestiniennes sont affichées par les fans de football dans des stades presque entiers au Qatar. Des fans et des joueurs qataris ont également été vus, portant des brassards et des rubans arborant le drapeau palestinien en signe de rejet des accords de normalisation avec l'entité illégale sioniste.